France Inter, 8h. Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la France s'expose au Grand Palais. C'est là, à Paris, que seront résumées les aspirations des Français, comme ils les ont dites sur Internet et dans les débats organisés partout depuis le mois de janvier. Séquence restitution avant les annonces d'Emmanuel Macron. Votre invité, Nicolas, les attend au tournant.
Oui, il s'agit de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, au micro d'Inter dans une vingtaine de minutes. Appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000 ou intervenez par les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Une grève des profs à partir d'aujourd'hui, pas en France, mais en Pologne. Là-bas, on enseigne avec un salaire de 600 euros par mois. C'est deux fois moins que le salaire moyen. L'appel d'une femme de 25 ans après le génocide rwandais. Une militante socialiste demande au parti de faire toute la lumière sur le rôle de François Mitterrand et sur celui du secrétaire général de l'Élysée de l'époque, un certain Hubert Védrine. Dans ce journal également, Tripoli subit de nouveau la guerre et les habitants se terrent. Un sport violent, le MMA, peut-être bientôt légalisé en France. Et de l'électro à la Philharmonie de Paris. Attention, ça va cogner.
France Inter.
C'est un long accouchement qui a commencé par de violentes contractions, ces manifestations de gilets jaunes hors de contrôle, début du travail comme on dit dans les maternités, mais la délivrance va encore prendre du temps. Aujourd'hui c'est l'heure de la synthèse du grand débat, on va y revenir, avant la naissance du bébé, sous forme d'annonce signée Emmanuel Macron, attendue dans les jours qui viennent. La petite graine à l'origine de tout ça, c'est le problème du pouvoir d'achat des classes moyennes. Prenons ce matin le cas de Nathalie, cadre de la fonction publique à la mairie de Poissy dans les Yvelines. Avec ses 2200 euros par mois, elle attend du concret au micro de Faustine Calmel.
Nathalie reçoit dans le petit trois pièces qu'elle loue un tableau Excel sur la table du salon.
C'est un document que j'ai mis en place parce que mon budget reste très serré une fois que toutes les dépenses fixes sont sorties. Et donc, je me dois de suivre l'évolution.
Une fois payé le loyer, les charges fixes, 450 euros pour se nourrir, un peu d'épargne et de chèques vacances, il reste à Nathalie 91 euros. Alors, une baisse de la TVA, elle l'espère, surtout pour manger mieux.
On ne mange pas de la viande rouge, des fruits, légumes, c'est pommes, poires, bananes. La baisse de la TVA, effectivement, ça me ramènerait beaucoup plus de pouvoir d'achat et mieux pouvoir consommer.
Nathalie va au travail à pied et compte 40 euros de carburant par mois. Ce qui lui rendrait vraiment service, c'est de bénéficier d'une allocation de rentrée scolaire.
En septembre, les enfants ont grandi pendant l'été. Les inscriptions au sport, ce serait une solution pour ne pas se mettre en difficulté dès le mois de septembre, où après on sait qu'il y a les impôts locaux qui arrivent en novembre.
Et elle attend avec impatience la suppression totale de la taxe d'habitation qui lui coûte 70 euros par mois.
Aller au cinéma par exemple, c'est 15-16 euros et que je dis non à ma fille. Mon fils m'a offert un abonnement Netflix, on attend 2 ans et on regarde des films sur Netflix. Le cinéma, ça fait partie des petites plus. Si effectivement ces 70 euros revenaient, pourraient faire plus de choses.
Nathalie fait enfin une proposition, que tout le monde paie l'impôt. Question de solidarité, dit-elle.
Et sur l'impôt, sur les services publics, sur l'écologie, on saura ce que les Français proposent. Ce matin, la synthèse du grand débat sera détaillée au Grand Palais, conclue par Édouard Philippe. Et nous avons ce matin le contenu des 2 millions de contributions Internet. Faustine Mouéran, c'est l'Institut Opinionway qui les a compilées.
D'abord, les participants veulent une baisse des impôts. Les plus riches doivent contribuer plus, mais seulement 10% des répondants réclament le rétablissement de l'impôt sur la fortune. En fait, un tiers quasiment estime que tout le monde devrait payer l'impôt sur le revenu. En revanche, ils proposent une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Sur l'immigration, ils veulent un durcissement des conditions d'accueil avec des quotas ou la suppression du regroupement familial. La plupart réclament aussi la prise en compte du vote blanc aux élections et plus de référendums au niveau local. Ils veulent des services publics plus proche de chez eux et plus humain en cas de difficulté. Et puis sur l'écologie, la taxe carbone qui avait mis le feu aux poudres, les répondants reconnaissent que le changement climatique change leur quotidien avec les canicules, les tempêtes, mais très concrètement, 1 sur 3 ne peut pas se passer de sa voiture. Mais alors attention, cette synthèse n'est pas représentative de tous les Français. Elle ne prend pas en compte les cahiers de doléances ou les résultats des milliers de réunions publiques. Pour l'instant, seulement les participations sur Internet. Et puis ce sont des algorithmes qui ont fait ces pourcentages en comptant les répétitions de certains mots clés Ensuite, seulement des êtres humains ont relu le tout pour faire ce résumé.
Et c'est donc Édouard Philippe qui conclura brièvement la restitution des débats devant 500 personnes ce matin sous la verrière du Grand Palais. Demain, devant les députés, il commencera à parler de ce que le gouvernement envisage de faire sans déflorer les annonces d'Emmanuel Macron attendues dans les jours qui viennent.
Il est 8h05, Florence. Là-bas, ce n'est pas un simple coup de pouce qui est demandé.
Les profs de Pologne en grève à partir d'aujourd'hui. Vaste mouvement pour réclamer 30% de hausse des salaires. Rencontre avec les enseignants parmi les moins bien payés d'Europe. C'est un reportage signé Thomas Giraudeau à Varsovie.
Sa photo de profil Facebook arbore un point d'exclamation noir sur fond orange, symbole de la lutte des professeurs. Judeta Rudnitska enseigne l'anglais depuis 8 ans dans une école primaire.
J'ai entre 3 et 8 heures de cours par jour. Entre les cours, je surveille les enfants, je discute avec eux. J'ai aussi 3 cours supplémentaires pour lesquels je ne suis pas payée. Puis je rentre chez moi, je réponds aux mails de tous les parents. Je prépare les prochains cours, je corrige les contrôles, je travaille bien plus de 8 heures par jour.
Judeta gagne au moins de 600 euros par mois, c'est presque deux fois moins que le salaire moyen en Pologne.
Ce n'est pas un salaire normal. Aujourd'hui, je suis moins bien payée que mes amis qui travaillent au supermarché. Comparé à des pays d'Europe de l'Ouest, c'est vraiment ridicule ce que l'on gagne.
En réclamant une hausse de 30% de leur salaire, les professeurs veulent rattraper le temps perdu, les dernières années où leur revenu a stagné. Katarzyna Lenarczyk enseigne l'anglais à des lycéens.
Moi, par exemple, j'ai un master et deux doctorats. Eh bien, je gagne 550 euros plus 200 euros d'heures supplémentaires. Avant d'être professeur, j'étais ingénieur du son. Et dans ce métier, on gagne aujourd'hui 3 fois plus que moi.
Depuis la rentrée, Katarzyna assure aussi 36 heures de cours chaque semaine. C'est 2 fois moins normalement. Mais la Pologne manque de professeurs. Les enseignants actuels ont donc plus d'élèves et de classes. Varsovie, Thomas Giraudeau, France Inter.
Et voilà qui nous amène à la campagne pour les européennes et au nerf de la guerre quand on veut se faire élire cet argent que les banques ne veulent pas prêter par peur de ne pas être remboursées ou de s'afficher avec un mouvement politique. Les partis de l'opposition semblent avoir trouvé la solution. Élodie Forest, c'est la cagnotte.
Le manque d'argent, un problème récurrent au Rassemblement national.
Aujourd'hui, le système bancaire, les amis de M. Macron.
Jordan Bardella, jeudi dernier, lors du débat entre têtes de liste.
Refuse de prêter aux partis d'opposition.
Le RN confronté au refus des banques, tout comme la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon qui a lancé un emprunt populaire.
Vous pouvez nous prêter de l'argent.
Succès immédiat, 1,5 million d'euros récoltés en 5 jours.
Ça dépasse nos attentes dans la rapidité avec laquelle nous avons obtenu des sommes.
Le trésorier Bastien Lachaud.
C'est aujourd'hui un passage obligé parce que les banques mettent énormément de temps à examiner les dossiers et quand elles émettent un avis favorable, l'argent arrive très tard.
Les insoumis qui font des émules, le RN doit lancer à son tour une souscription. Debout la France y réfléchit sérieusement et Génération, le parti de Benoît Hamon, ouvrira cette semaine sur le web une plateforme dédiée. Le trésorier Bastien Rocher.
On va lancer la banque militante. On va avoir à la fois les dons, les prêts et la possibilité de se porter garant aussi en cas de défaillance, si jamais on était en dessous des 3%.
Alors l'emprunt populaire, solution miracle, pas pour tout le monde. Malgré une souscription lancée il y a plusieurs mois, le NPA de Philippe Poutou a lui jeté l'éponge, faute de moyens suffisants pour mener campagne.
Et à 2 mois des élections, toute la production de France Inter sur ces européennes est disponible sous le hashtag Votre Europe. Rendez-vous sur l'application Radio France et sur les réseaux sociaux. 25 ans de silence à gauche, voilà maintenant le cri d'une militante socialiste au lendemain des commémorations du génocide rwandais. Elle salue l'ouverture des archives annoncée par Emmanuel Macron et cette journée du souvenir tous les 7 avril, mais elle réclame toute la lumière sur le rôle de François Mitterrand, président en 1994. Elle qui fut médecin au Rwanda pendant le génocide chez Médecins du Monde. Elle s'appelle Annie Faure, voici son combat au micro de Rémi Brancato.
J'essaie de faire bouger le Parti Socialiste sur ce sujet-là, en dénonçant, en parlant des plaintes que j'ai ramenées du Rwanda contre l'armée française. Malheureusement, que ce soit au niveau de la Fédération du Parti Socialiste, Emmanuel Grégoire en son temps, et maintenant Olivier Faure, ne sont absolument pas prêts du tout, à admettre ce que leur mentor, ce que François Mitterrand a fait. Ce qui me choque, c'est que les années passent et qu'il n'y a pas de renouveau. C'est comme si les secrétaires du Parti Socialiste, tout jeunes qu'ils soient, n'avaient aucune possibilité de rejeter le lourd fardeau du mitterrandiste sur cette complicité du génocide des Tutsis et qu'ils étaient sous l'influence de ceux qui ont beaucoup à perdre. Hubert Védrine en premier, on en parle beaucoup dans la presse en ce moment, parce que Védrine était secrétaire général de l'Élysée en 94. C'est lui qui était l'intermédiaire entre Mitterrand, l'armée française et l'armée rwandaise. C'est lui qui a accepté ou fermé les yeux sur la livraison d'armes et la protection des génocidaires rwandais. C'est ça la réalité.
Annie Faure, médecin et militante socialiste, 800 000 Tutsis ont été massacrés au Rwanda en 1994. Pas de trêve en Libye. Les appels de l'ONU sont restés sans effet sur les combats qui opposent les forces du maréchal Haftar à celles du gouvernement d'Union nationale. L'offensive a été lancée jeudi sur Tripoli par le maréchal qui domine l'Est libyen. Des combats au sol, on est passé ce week-end à des raids aériens. Maureen Mercier a pu joindre un habitant de la capitale libyenne.
Ce père de famille, quatre enfants, a comme tous les Libyens déjà vécu deux guerres civiles depuis la chute en 2011 de Muammar Kadhafi. Voir le général Haftar attaquer la capitale, c'est pour lui un coup de massue. La rumeur planait depuis des mois, mais il se refusait d'y croire.
On n'a jamais pensé d'avoir la guerre sur Tripoli. Il y a beaucoup de victimes civiles.
Si les gens se déplacent, c'est pour faire des provisions uniquement.
Les gens, ils sont pas. Il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas au travail. Les écoles sont ouvertes, mais il y a beaucoup d'absence des étudiants. La ville est vide.
Peur de la guerre, et à cela s'ajoute une autre crainte, le terrorisme islamiste.
Aujourd'hui, Daesh profite des guerres comme ça pour faire des attentats. Donc les gens, ils font attention, ils disent maintenant, c'est pas le moment de bouger, il faut rester à la maison, dans les quartiers même. Voilà.
La crainte de ce père de famille, c'est que la guerre se prolonge. Selon lui, aucune force n'a les moyens de prendre le dessus facilement. Mais les deux camps ont les moyens de faire durer la guerre très longtemps. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Et ces premiers combats ont fait 32 morts selon un tout dernier bilan qui vient de nous parvenir de Tripoli. Pas d'accès à Israël demain depuis Gaza où la Cisjordanie, l'armée israélienne, annonce le bouclage des points de passage pour les élections législatives. Carlos Ghosn n'a plus aucun mandat chez Nissan. Les actionnaires du constructeur japonais viennent de le révoquer de son poste d'administrateur. À sa place, le nouveau patron de Renault, Jean-Dominique Senard. Et c'est de sa prison de Tokyo que Carlos Ghosn aura les échos de cette ultime éviction. Ses avocats viennent d'écrire au procureur en chef de Tokyo pour lui demander, je cite, d'arrêter de torturer Carlos Ghosn. Google, Mythique, Amazon, Facebook, une trentaine de mastodontes du net appelés à payer. C'est la taxe GAFA qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Elle irrite Washington. Le chef de la diplomatie américaine demande à la France d'y renoncer. Ça n'est que partie remise pour le PSG. Le club attendra pour être sacré champion de la Ligue 1 à cause de son match nul face à Strasbourg hier soir et à l'improbable boulette d'Eric Choupo-Moting qui a empêché un de ses coéquipiers de marquer. Amateur de grosses bastons, ce qui va suivre va vous intéresser. On parle de MMA, un mélange de lutte, de boxe et de judo pratiqué en cage. Pour l'instant, ce sport est interdit en compétition, mais ça va peut-être changer. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a ouvert la porte. Écoutez le reportage de Julie Pietri dans une salle d'entraînement parisienne.
Certains frappent torse nu, d'autres en combinaison moulante noire. Une vingtaine d'hommes qui combattent deux par deux et aussi une femme.
J'aime beaucoup la bagarre en fait, hein. C'est surtout ça. Hein.
Marie-Laure, 25 ans, en fac de médecine.
Moi j'aime me battre, mais après pas au point de... Est-ce que ça se met à saigner partout? Est-ce qu'on se casse des choses? Ouais, non, c'est pas le but.
En MMA, les coups de pied, poings, genoux, coudes sont permis. Les coups à terre aussi. Johan Segas, 25 ans, tout en muscles et professionnel de la discipline.
Nous, on pratique dans un espace qui s'appelle l'octogone, plus communément la cage, qui est un petit peu une vision, comme ils disent, les jeux du cirque. Mais c'est avant tout sécuritaire pour la pratique des combattants. Le MMA est né à la base sur un ring. Beaucoup d'athlètes tombés en fait.
T'attends quoi? Donne-moi la guerre. T'attends quoi?
Fernand Lopez, entraîneur de MMA, a reçu la ministre des Sports ici dans la salle en février. Il attend la légalisation de la discipline.
Je pense que la plupart des athlètes souhaiteraient combattre sur leur territoire, c'est-à-dire faire leur sport auprès de leur famille. Quand ils vont à l'étranger, ils sont diffusés en direct sur des millions de foyers à travers le monde. Dans leur propre pays, ils sont mal aimés, c'est un peu embêtant pour eux.
La légalisation permettrait aussi d'encadrer ce sport, de forcer les coachs improvisés à passer un diplôme. Aujourd'hui, il serait entre 30 et 50 000 adeptes en France.
Quand l'électro entre dans le temple de la musique classique électro de Kraftwerk à Daft Punk, à la Philharmonie de Paris, l'exposition commence demain. Elle retrace le parcours de ses musiques, des pionniers du GRM jusqu'au DJ actuel, visite guidée par Mathieu Culeron.
Ce sont des structures d'échafaudage qui accueillent le public, quelque chose d'assez brut, un peu comme au temps des rêves parties. Plus loin, une série d'instruments et de machines sont exposées. Jean-Michel Jarre a même souhaité présenter ses plus belles pièces. Quant au Daft Punk, il présente une création inédite, le tout au son d'un mix signé Laurent Garnier. Les musiques électroniques font donc leur entrée dans l'institution. Il en aura fallu du temps, comme le constate Jean-Yves Leloup, commissaire de l'exposition.
Et ce qui est très curieux avec l'histoire de la musique électronique qui existe depuis à peu près 35 ans, c'est qu'elle n'est devenue populaire et mainstream que très très tard, dans les années 2010. Faut imaginer, c'est comme si le rock'n'roll n'était devenu populaire que dans les années 80-90.
Intitulé Electro de Kraftwerk à Daft Punk, l'exposition a eu l'honneur de la visite du cofondateur du groupe mythique allemand, Ralf Hütter, extrêmement rare et discret. Il semble ravi du résultat.
Ça, c'est très intéressant pour retrouver les sources pour des nouvelles inspirations. Dans les années 68, nous avons créé une musique qui était contemporaine de notre culture industrielle en Allemagne. Peut-être aussi avec un œil sur le futur, faire parler les sons de l'âge technologique.
Electro est une exposition qui rend hommage à une musique longtemps rejetée par l'institution. C'est aussi une ode aux danseurs, aux rêveurs, qui ont fait de cette musique marginale une communion désormais planétaire.
Ça, vous avez reconnu, Nicolas ?
Non.
C'est du Daft Punk.
Ah oui.
Ne loupez pas Nicolas, parce que je sens que vous en avez besoin. L'émission spéciale de Didier Varro, vendredi soir, ouais, de 21h à 23h,
ouais.
À la Philharmonie de Paris, avec Laurent Garnier, avec Étienne de Crécy, Arnaud Robotini, ou encore le groupe Pristine.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Marie-Pierre, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest.
Oui, et les nuages sont déjà présents sur les régions de l'Atlantique, apportant donc ce matin quelques pluies sur la côte basque. Des pluies, vous en aurez encore des Ardennes, au Jura, à la Bourgogne, aux Alpes du Sud, avec de la neige dès 1300 mètres. Et puis sur une large bande centrale, ainsi qu'autour de la Méditerranée, le soleil va vous accompagner ce matin dans une ambiance plus fraîche dans le centre du pays. On a eu quelques petites gelées matinales, comme en Haute-Loire, dans la Creuse ou dans le Cantal.
L'instabilité se renforce cet après-midi.
Oui, elle sera plus marquée d'ailleurs dans l'ouest à cause de cette dépression, toujours centré sur le golfe de Gascogne, et au fil des heures, eh bien les averses et quelques orages vont se décaler de la Bretagne à l'Occitanie avec de la neige sur les Pyrénées des 1600 mètres. Et puis sur la façade est, toujours nuageux, des averses, voire un ou deux coups de tonnerre sur le sud-est qui restera, lui, épargné. Toujours sur cette frange centrale de la Normandie à la Méditerranée, le ciel va rester variable et compter sur des températures de saison un peu plus fraîches à l'est, pas plus de 12 sur le plateau de Langres. Vous aurez 13 à Nantes, 14 à Metz, 15 à Strasbourg comme à Bordeaux et Biarritz, comptez 17 à Paris, à Bayonne et Ajaccio, sous le vent et une ou deux averses, c'est le maximum, c'est pour Marseille avec 18.